Radio Allegra, 93.1 FM.
Merci à Royal S, retour de Old School, New School, jeudi prochain à 19h. Et d'ici là, retrouvez l'émission sur aligrefm.org et sur le Facebook Old School, New School. Il est 20h sur aligrefm. Avant les mondes du futur, un regard sur les programmes des jours prochains. Samedi après-midi sur aligrefm, ne manquez pas Jazzbox à 17h par Jacques Thévenet, Lusitania à 18h, le magazine des cultures lusophones. Dancehall Echo à 21h, la scène contemporaine de la musique jamaïcaine par Fabrice Montpierre. Et demain, vendredi à 10h, vous avez rendez-vous avec Jean-Marc Galland pour Recherche en cours. Jean-Marc reçoit deux chercheurs qui travaillent sur les pages Facebook post-mortem. Et oui, les pages Facebook des personnes qui sont décédées et qui demeurent malgré tout sur Internet. À 11h, Brasil Alto Astral, le magazine musical des cultures du Brésil par Gilles Bourgarel. À 19h, c'est toujours la même histoire, ou comment le passé éclaire le présent. Mais tout de suite, jeudi 26 janvier 2017, place au monde du futur. Le magazine explore les pistes qui nous mènent vers le monde de demain. Cette recherche fait une large place aux témoignages des acteurs de terrain, des ingénieurs, des universitaires ou des sociologues qui agissent aujourd'hui pour penser et préparer le futur. Les mondes du futur, une émission de François Legrand, Nicolas Mignoret et Florent Détroit. À la réalisation, Adrien Chéneau. Ici François Legrand, je vais jouer les maîtres de cérémonie pour cette émission. Puisque nous parlerons de politique ce soir au monde du futur, j'aimerais relever trois faits qui pointent la fragilité de notre système actuel et qui justifient sans doute qu'on le repense en profondeur. Tout d'abord, on notera que dans les agitations des primaires, les vraies perdantes sont les femmes, puisque leur rôle reste confidentiel, et ce, malgré de nombreuses initiatives et même des lois en faveur d'une présence plus forte des femmes dans la vie publique et les entreprises. Mais finalement, peut-être que les femmes ont un sens de la responsabilité plus prononcé que celui des hommes. Ainsi, en renonçant à se présenter à la primaire de gauche, Marie-Noëlle Lienemann nous donne une belle leçon de responsabilité face au risque de présenter à gauche trop de candidats dont les lignes seraient très très semblables. Je ne sais pas si mon texte est tout à fait d'actualité après le débat d'hier, mais enfin, à l'inverse, on a vu les difficultés à fédérer autour d'elle qu'ont connues à différentes reprises Ségolène Royal lors de l'élection de 2007 ou Nathalie Kosciusko-Morizet lors des municipales de Paris en 2014. Quant à Rachida Dati, elle se révèle être une sacrée semeuse de zizanie. Furieuse de s'être vue chipper l'investiture de droite pour les législatives dans la deuxième circonscription de Paris, elle s'est déchaînée contre NKM dans les médias cette semaine, affirmant même que cette dernière a toujours trahi ses électeurs et ses partenaires politiques. NKM et Sylvia Pinel, courageuses, ont quand même présenté dans les primaires de droite et de gauche leur candidature, mais leur rôle a été réduit à la portion congrue. Tout le monde en convient, les autres candidates, autant que les sondeurs et les journalistes ont pensé effectivement qu'elles étaient pratiquement insignifiantes. Ça me fait mal de le reconnaître, mais dans ce paysage, deux femmes incarnent une forme de renouvellement et de jeunesse par rapport à tous les vieux barbons de la politique qui ne nous enthousiasment pas beaucoup. Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen. Encore que c'est peut-être par les chicayas de ce tandem familial que viendra le temps de la fracture politique du FN, révélant, on l'espère, l'incurie de ses programmes et la nature vénéneuse de ses théories. Mais j'en arrête là pour mon introduction. Chers amis, Florent, Nicolas, je vous demande de vous présenter vos invités. Donc, Florent Détroit.
Bonjour à tous. Mon invité est Thibaut Rioufray, docteur en sciences politiques et chercheur au laboratoire Triangle de Lyon. On parlera bien sûr de l'avenir des partis politiques et peut-être en s'appuyant sur sa connaissance du Parti socialiste et du Parti travailliste.
Et Nicolas Mignoret, vous avez invité ?
J'ai invité André Bellon, qui nous fait l'honneur d'être là, qui est président fondateur de l'association Pour une Constituante.
Merci, bonsoir messieurs. En fin d'émission, le billet d'actu, de quoi allez-vous nous parler, Nicolas ?
D'une émission concurrente sur une certaine chaîne du service public.
Et Florent ?
De Staline et de la littérature russe.
Et moi, je vous parlerai d'écart Macron. Mais tout de suite, qu'est-ce qui vous prend ? Fantastique, horreur, science-fiction. Côté français, on pense à Henri-Georges Clouzot, qui avait fait merveille avec Simone Signoret, Vera Clouzot, et surtout Paul Meurice, avec ses yeux en balle de ping-pong pour les Diaboliques en 1955. Il semble qu'une nouvelle génération de réalisateurs français s'empare des codes du cinéma de genre. Pour en parler, nous sommes au téléphone avec Guillemette Audicino, qui est journaliste à Télérama, et qui a enquêté avec Jérémy Couston sur ces nouveaux talent. Bonsoir Guillemette.
Mais bonsoir.
Merci à vous d'être avec nous sur Aligre FM.
Mais je vous en prie, et puis c'était très bien ce que vous avez dit sur les femmes. C'est vrai.
Vous dites dans votre enquête.
Mais oui, ça manque.
Bon, on vous invite une autre fois pour en parler, mais là on va parler de votre enquête dans Télérama.
Absolument.
Vous dites que votre enquête dans votre enquête là qu'il filme avec un certain succès les morts-vivants, les cannibales ou les après-demain effrayants. Qu'est-ce qui leur prend à ces jeunes réalisateurs d'aller jouer dans une cour qui est traditionnellement occupée avec pas mal de talent et pas mal de succès par les Américains ?
Eh bien justement, il leur prend, je pense, de ne pas vouloir faire comme les Américains, ça c'est important, mais il leur prend que le monde leur fait peur, ils sont pas les seuls, et que cet avenir qui un peu les effraie dans plein de domaines, dans l'ultra-solitude des grandes villes, dans les rapports hommes-femmes, dans les politiques environnementales, dans tout. En fait, je pense qu'ils traduisent, et ils ont bien raison, des préoccupations en fait qui sont assez sociales, humanistes, écologiques, à travers du cinéma d'auteur, alors qui convoque évidemment vraiment des codes du genre. C'est-à-dire, on est vraiment dans des films de genre. On est effectivement, comme vous l'avez dit, dans il va y avoir un film qui va sortir qui s'appelle La nuit a dévoré le monde, où il est question de zombies. Et il va surtout
Super.
Y avoir, comme quoi, je reviens aux femmes. Il va y avoir une jeune cinéaste, Julia Ducournau, qui son film va bientôt sortir au mois de mars, qui a réalisé Grave, que je vous invite tous à aller voir, qui est vraiment, une réflexion sur, pour aller très vite, hein, sur plein de violences sociales, sur aussi comment une jeune femme aujourd'hui s'émancipe, trouve son identité, mais elle se sert des codes du genre et des codes, disons, de la dévoration pour faire un film vraiment sur la quête identitaire dans un monde violent. Donc vraiment, je pense que cette nouvelle génération, bon, ils ont évidemment vu tous les films de George Romero, ils ont vu La nuit des morts vivants, ils ont vu Massacre à la tronçonneuse, mais c'est une génération qui a bien digéré les films de Wes Craven aussi, qui a bien digéré les codes du genre, qui a regardé en plus du genre dans des auteurs de genre, que tous les cinéastes américains dont je viens de parler, c'est quand même à chaque fois, eux aussi, ils avaient quand même un sous-texte politique, et qui essayent de faire à leur tour un cinéma politisé de genre.
Mais alors, donc, ces jeunes auteurs, ils dépassent les codes de la série B, ils ont une autre ambition, c'est bien ça ?
Oui, 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 absolument. Alors, c'est marrant, vous avez dit série B, j'ai cru que vous alliez dire série. Alors, il y a série B, évidemment, donc les séries B américaines, dont on considère maintenant que souvent, comme La nuit des morts vivants et autre chose.
C'est quand même culte, oui.
Mais bien sûr, ce sont des films qui sont devenus cultes, qui ont été un petit peu méprisés, et parce qu'ils étaient dans des niches. Et ces jeunes auteurs, ils ont envie de faire du genre et de sortir ce genre des niches pour dire un peu comme ça, en douce, donc derrière le sang, derrière les morsures, derrière les grandes villes où on se court après, qu'ils ont des préoccupations qui sont en fait strictement les mêmes que nous. Il y a un film qui est sorti il y a quelques temps, au mois de novembre, qui hélas a fait très peu d'entrées et qui j'espère les gens vont rattraper en DVD, qui s'appelle Arès.
Arès.
Un film Arès de Jean-Patrick Bénès. Mais c'est un film qui dit exactement comment une société, livrée aux grands groupes, livrée aux anabolisants, livrée aussi au culte du sport, au culte de tout ça, au pari sur les jeux, enfin tout ce qu'en fait on vit aujourd'hui de manière pour le moment encore démocratique, peut donner une société extrêmement effrayante. Vraiment un film d'anticipation. Qui d'une intelligence folle, quoi.
Donc, est-ce qu'il y en a quand même qui projettent des visions un peu positives?
Eh bien, écoutez, hélas, non.
Eh ben, dites en fait, donc.
Les Schtroumpfs, hein, c'est pas du cinéma de genre. Non, ils projettent leurs angoisses, les nôtres avec. Donc, non, ce sont forcément toujours des films assez noirs. Mais qui donne aussi des pistes, hein, qui donne aussi des pistes pour réagir et pour bien vivre dans le monde de demain.
Pour essayer de se projeter dans les mondes du futur. Merci Guillemette Audicino. On vous lira toujours avec plaisir et sachez qu'autour de la table ici, et j'espère que vous aurez l'occasion une autre fois de faire connaissance avec notre équipe. Vous avez des fans absolument extraordinaires.
Je viendrai parler des femmes et de la culture. Allez,
très bien. Merci, à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Aligre FM 93.1. La radio qui fouette le sang.
Vous écoutez Aligre FM 93.1. Il paraît qu'on est la radio qui fouette le sang. Les mondes du futur, Florent Détroit.
Oui, merci de cette transition. Donc, avec mon invité, Tibor Youfray, docteur, je rappelle, en sciences politiques, spécialiste des partis politiques et de la gauche française. On va essayer d'explorer alors un avenir, je sais pas, peut-être un tout petit peu plus positif que ce qu'on a entendu dans le cinéma. On va interroger un petit peu la forme des partis politiques à l'avenir, et savoir un petit peu comment ils peuvent se réinventer. Avec vous, Tibor Youfray, j'aimerais d'abord commencer sur un constat, une sorte de diagnostic un peu de la situation. En 2016, le CEVIPOF a fait un sondage. Les 12% des citoyens français avaient confiance dans leur parti politique. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont 27% à faire confiance aux syndicats et 24% aux médias. C'est dire quand même la crise que traversent les partis politiques. Peut-être en quelques mots, si on dresse un bilan des partis politiques, pourquoi ils sont vraiment repoussés ou les populations ne croient plus du tout à un parti politique? C'est quoi le diagnostic rapide qu'on peut faire?
Merci. Il y a plusieurs éléments, évidemment. Je pense qu'il y a déjà une question de représentation qui est liée au fait qu'il y a un décalage réel entre un certain nombre de programmes, de promesses électorales, de discours qui sont faits et de réalité ensuite dans les pratiques gouvernementales. Donc on va dire un écart entre le discours et les pratiques qui font qu'on ne se sent plus représenté. Il y a ce premier aspect. Il me semble aussi un autre aspect qui est celui de dire finalement on va décider tous les 5 ans et entre ces échéances électorales, finalement la participation des citoyens, qui est une demande hein, qui prend de plus en plus sous différentes formes, finalement n'est pas prise en compte par les partis politiques. Il y a un troisième problème qui est un problème de représentativité. Il suffit donc on a parlé de la question des femmes, la question des minorités ethniques, etc. C'est finalement si on regarde le Parlement ou bien un certain nombre de partis politiques, on voit bien que c'est plutôt des hommes blancs, plutôt âgés, la plupart du temps hétérosexuels, et donc on voit qu'il y a ce décalage là dans la représentativité qui n'est pas la question de la représentation.
D'accord. C'est intéressant, ces critiques. Alors, je ne sais pas si elles étaient formulées comme ça à l'époque, mais en cherchant, j'ai trouvé une citation de Simone Veil, la philosophe, qui parlait des partis politiques de manière assez violente. C'est les années 50. Je cite rapidement, ce sont des organismes publiquement, officiellement constitués de manière à tuer dans les âmes le sens de la vérité et de la justice. Est-ce qu'il y a toujours eu une critique des partis politiques ?
Oui, ça, c'est une vieille enfin, dès que les partis politiques sont nés, ces critiques-là ont émergé. Cela étant dit, on voit qu'il y a quand même une intensification et une défiance supplémentaire à la fois des électeurs, des citoyens. Il faut voir quand même que, finalement, il y a 0,57% des votants qui font partie d'un parti politique.
Donc, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage parce que je trouve essentiel de rappeler que ces structures existent et que finalement, peu ou prou, quand on se présente à la porte d'un parti politique, il est très facile d'y entrer. Je ne dis pas d'y faire carrière et d'avoir de l'influence et de faire entendre ses idées, mais au moins, on est le bienvenu, je pense, à droite comme à gauche. C'est des structures qui existent. Les gens ont l'impression qu'on ne les écoute pas, qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer, qu'ils n'arrivent pas à faire passer leurs idées. Et pour autant, il faut rappeler que dans un pays comme la France, ces structures, elles existent quand même. Ce n'est pas le cas dans tous les pays.
Non, c'est vrai que si on fait une comparaison avec des pays autoritaires, il n'y a pas ce droit-là. Cela étant dit, certes, on peut franchir la porte dans les sections. Il y a quand même des résistances, notamment des résistances de la part d'un certain nombre de barons locaux pour pas modifier la composition des rapports de force internes dans les sections. Il y avait eu ce débat-là, notamment avec les fameuses entrées à 20 euros des adhésions avec Ségolène Royal, etc. Donc, on voit bien que faire entrer de nouveaux militants, ça modifie les rapports de force internes. Et puis aussi, il faut voir que certes on peut les faire rentrer, mais est-ce qu'ils vont rentrer dans le cadre, dans la culture politique, dans la manière de s'exprimer? On voit bien qu'en l'occurrence il y a une vraie difficulté pour une partie des classes populaires à pouvoir finalement avoir le rôle de socialisation politique que les partis ont pu jouer et qui n'est plus du tout joué à cet égard.
C'est justement, je reprends un peu cette idée de manque de responsabilité, pas responsabilité, mais de légitimité des partis politiques. Je voudrais aussi interroger un petit peu l'avenir, savoir où pourrait aller la légitimité politique des citoyens ou des gens engagés. Parce qu'on voit quand même que on ne manque pas d'engagement en France. À travers les associations, à travers les comités d'experts, à travers les think tanks, on voit qu'il y a quand même une envie de débattre. Donc, peut-être que le parti politique se vide un petit peu de sa légitimité, mais elle existe ailleurs.
Ah oui, moi je dirais que la légitimité partisane n'est qu'un des cas de la légitimité politique. Il est évident que pour moi les engagements associatifs, les engagements dans différents collectifs, souvent sous des formes plus informelles, pas sous la forme d'une cotisation, d'une adhésion, etc., tout cela existe. La difficulté finalement c'est qu'on est dans une situation où il n'y a jamais eu, je crois, autant de demandes de politique et aussi jamais eu autant d'idées qui ont été produites. Mais finalement, le problème, c'est la traduction partisane. C'est le fait de récupérer ces expérimentations locales, ces propositions, ces énergies finalement associatives. Et on le voit, bon, dans le cas du parti que je connais le mieux, il y a une coupure de tous les réseaux extra-partisans avec les syndicats, avec un certain nombre d'associations et qu'ils ont du mal à renouveler. Et du coup, c'est une sorte de dévitalisation des partis à cause de cette coupure-là.
On va revenir un petit peu avec justement ces nouvelles organisations après la pause musicale. Vous êtes sur Aligre FM, les membres du futur. Tout de suite, nous passons à la deuxième invitée avec Nicolas. Nicolas, c'est à vous.
Oui, mon invité est André Bellon, donc, qui est ancien député PS hein, dans les années 80-90. Vous avez fondé en 2007 l'association pour une constituante. Vous êtes aussi, on vous lit régulièrement dans le monde diplomatique. Alors, première question déjà, puisqu'on a parlé de la transformation un peu de la vie politique, vous l'avez vécu un peu de l'intérieur, maintenant un peu plus en tant qu'observateur. Comment vous caractériseriez ce changement un peu? Qu'est-ce que vous avez vu changer depuis toutes ces années?
D'abord, puisque vous m'avez présenté, je me permets de rajouter un petit élément parce qu'il explique aussi la suite. C'est que, après avoir été donc député des Alpes-de-Haute-Provence pendant quelques temps, moi je me suis présenté tout seul contre le Parti Socialiste qui, appelant un chat, m'a insupporté. Bon, donc, sous l'étiquette gauche républicaine, d'ailleurs, dans l'élection de 93, j'ai battu le PS, on a été battus tous les deux, mais ça on le savait d'avance. Le problème étant de marquer à la fois un parcours personnel et une pensée. Bon. Alors ensuite, moi je crois que ce qu'on vit en ce moment, c'est pas une chose obligatoirement très neuve. Je pense que quelque part, un certain nombre des phénomènes dont nous parlons étaient inscrits dès le début de la Ve République. Le problème, c'est que quand la Ve République s'est fondée, avec quand même quelques personnes non négligeables qui étaient hostiles à ce système, je pense à Pierre Mendès-France par exemple, on était dans la guerre d'Algérie, des circonstances particulières, donc on pouvait expliquer un système assez centralisé avec une dose d'autoritaire. Le problème, c'est que ce système a évolué dans le mauvais sens. Déjà qu'il y avait un problème dès l'origine, ça ne s'est pas arrangé.
C'est encore plus autoritaire maintenant, c'est ça que vous voulez dire ?
Oui, absolument, absolument. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'idée de l'autoritaire était liée à l'idée de la reconstruction de la France et de faire vivre un pays qui serait confronté à un certain nombre de défis, la colonisation, problème d'industrialisation, etc., etc. Aujourd'hui, c'est un régime, je vais caricaturer bien sûr, hein, mais c'est un régime qui a gardé ses aspects autoritaires sans avoir vraiment d'objet pour appliquer l'autorité. C'est-à-dire qu'à l'extrême, on pourrait dire que Hollande, il avait tous les pouvoirs, mais il n'avait aucune intention de les exercer. Il les essayait exercer par d'autres, l'Union européenne, les marchés, etc., etc. Et donc, les caractéristiques que vous évoquez n'ont fait que s'accentuer. Les partis devenant quoi? Puisqu'aussi bien la démocratie ne fonctionne pas, et que les partis n'ont pas le rôle théorique que leur accorde la Constitution, hein, parce que c'est quand même marqué, hein, elle contribue à l'élaboration du pouvoir. Et du moment qu'il n'y a plus ça, quelque part, les partis font quoi? Ils font des carrières, les carrières de ceux qui sont membres,
carrière politique.
Et ils accentuent l'aspect professionnalisation de la vie politique. Accentué d'autant plus que si vous voulez être parlementaire, par exemple, si vous êtes salarié technique, mettons ingénieur par exemple, avec l'obsolescence des méthodes, c'est pas évident de jouer ce genre de choses. Alors ça m'amusait tout à l'heure quand vous disiez d'ailleurs, il n'y a pas de femmes, mais peut-être qu'elles sont à l'avant-garde. Comme il s'agit plus de jouer à ce jeu-là, elles ont déjà décidé qu'elles étaient dans l'espace d'après. Elles n'y jouent déjà plus. Bon, c'est la version optimiste, je l'accorde, mais c'est intéressant de le relever.
C'est quoi pour vous l'espace d'après, justement?
Alors l'espace d'après, moi j'ai fait, je me réfère toujours à ça, excusez-moi de me citer moi-même. J'ai fait un article, justement, vous citiez le monde diplomatique, sous le titre « Bonapartisme ou constituante ». Bon. Pour moi, l'alternative à laquelle on est confronté, à laquelle on sera de plus en plus confronté, c'est celle-là. Alors j'ai pris deux mots qui riment l'histoire de France, j'aurais pu mettre autoritarisme ou démocratie, bien entendu. Mais bon, il y a eu deux empires et six constituantes en France, donc c'est une manière de se référer à notre propre histoire. Et je crois que ce choix-là est inévitable, parce que un pays, face aux défis actuels, en particulier ce qui se passe à la géopolitique, les problèmes économiques, ce qui s'est passé aux États-Unis, qui va nous poser de gros problèmes... il y a un pays a besoin de son peuple. Alors, il y a deux manières d'avoir un peuple qui soutient, un processus historique. Il y a la manière autoritaire, garde à vous alignement, le premier qui bouge, on y tape dessus. C'est pas ma favorite. Puis il y a la manière, on reconstruit la démocratie, qui en a bien besoin, et ça s'appelle une constituante. Voilà, c'est tout simple.
Très bien. Eh ben, on va explorer cette piste un peu plus tard. Une toute petite pause musicale aussi, et puis on revient tout de suite après. Vous êtes toujours sur Aligre FM dans les mondes du futur, Nicolas Mignoret, je suis avec André Bellon et Thibaut Rioufray. Je passe tout de suite la parole à Florent De Troyes.
Alors je reprends la main et on va peut-être continuer avec vous deux, nous cinq en studio, à explorer maintenant les nouvelles formes d'organisation politique. Je voudrais m'appuyer sur les exemples étrangers qui ont été beaucoup plus forts qu'en France. Je pense à l'Espagne, à l'Italie, peut-être dans une moindre mesure en Islande, en Angleterre. Ces nouvelles formes d'organisation qui, donc, c'est Podemos, c'est Mouvement 5 étoiles, Syriza, qui sont peut-être des grands rassemblements populaires. Là, pour le coup, la légitimité populaire, elle est là. Pour vous, est-ce que ces deux, je vois déjà une moue, Monsieur Bellon, est-ce que pour vous ces mouvements-là ont la légitimité suffisante pour imposer, pour entrer en politique ?
Écoutez, la légitimité, c'est là justement que on va revenir à mon discours, hein, bonapartisme constituant. La légitimité, elle se décrète pas. Elle est donnée par le peuple. C'est le peuple qui dit ça, c'est légitime, ça l'est pas.
Disons qu'elle est donnée avec 20% dans les élections.
Ce qui est extraordinaire, c'est que, je sais pas si vous avez remarqué cette évolution extraordinaire depuis quelques années, en démocratie, enfin du moins je croyais, que les électeurs jugeaient les élus. Depuis quelques années, c'est les élus qui jugent les électeurs.
Hein ? C'est-à-dire ?
Je vous prends l'exemple de 2002. Bon. Il y a eu le résultat que vous savez, Jospin éliminé dès le premier tour. Et on a vu une série d'interventions. Hein. Bon, j'en reprends deux parce qu'elles touchent directement le candidat. Madame Jospin faisant un livre où elle a dit c'est la faute aux électeurs qui sont insouciants.
Le peuple a mal voté. Ben, quoi.
C'est ils ont mal voté. Bon, c'est la faute aux électeurs. Ben Monsieur Lapalisse n'aurait pas dit mieux. Oui. Non. Monsieur Jospin qui quelque temps après dit qu'il faut fustiger les futilités de la campagne électorale, mais après tout c'était la sienne que je sache. Enfin, non, du moins, il m'avait semblé.
On peut imaginer quand même que des personnalités politiques qui se font balayer aussi brutalement soient un petit peu aigris. On peut comprendre. Moi je m'intéresse vraiment à ces nouvelles formes, ces nouveaux rassemblements. Une place qui accueille un million de personnes qui peut-être n'avaient jamais voté, c'est pas significatif de quelque chose d'une autre organisation.
Et 55% des Français qui sont 75% à voter et qui disent non à un traité, à qui on dit allez vous faire voir, et on le fait quand même, c'est pas
on est d'accord, du coup, bon. Peut-être.
Je pense que c'est pas contradictoire. Ce que vous soulevez là, c'est la question de ce que dit le sociologue Albert Rogien, c'est des partis mouvementistes, c'est-à-dire des partis qui vont tirer une partie de leur légitimité plus seulement de l'électorat, ou en tout cas dans un deuxième temps avec la transformation du mouvement des indignés en Podemos. Mais avec cette idée qu'on a une légitimité qui vient de la rue ou à travers une série de cercles autour de Podemos, par exemple, de démocratie participative. Je pense qu'il ne faut quand même pas négliger ces mouvements en tant qu'expression, sous des formes différentes, d'une volonté de participation politique directe, qui pose d'autres soucis. Mais on le voit avec le parti pirate islandais, on le voit avec une série de tentatives, notamment aussi Jeremy Corbyn qui monte une structure à côté du parti travailliste, Momentum. Donc on voit que finalement, il y a trois défis pour la légitimité, trois choses vis-à-vis desquelles les partis doivent se situer. Il y a finalement comment articuler une démocratie élective qui existe déjà, mais qui convient de compléter par de la démocratie participative, éventuellement par du tirage au sort. Donc une série de procédures. Je pense que pour éviter les débats sur la légitimité un peu hors sol, finalement la légitimité elle se construit à travers des procédures, et en l'occurrence, voilà, tirage au sort, démocratie participative. Il y a aussi un autre élément, et Podemos c'est un bon révélateur de ça, c'est le fait que finalement on est face à des partis qui sont finalement des partis réseau, c'est-à-dire qui sont largement plus ouverts et qui tentent de mettre en place des procédures qui permettent à des gens qui ne sont pas dans le parti de pouvoir intégrer les listes, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir proposer un certain nombre de choses. Je prendrai juste deux exemples pour pas être trop long. Le premier, c'est les plateformes, notamment les plateformes numériques qui sont mises en place par des partis comme le parti islandais, le parti pirate allemand aussi, sous des formes différentes, où finalement les membres du parti peuvent participer au programme et ne sont pas dépossédés par des experts. Et puis le deuxième exemple, finalement, c'est on va dire les tentatives de c'est ce qu'a essayé Europe Écologie Les Verts, d'ouvrir les listes à des membres extérieurs, avec la réussite qu'on sait. Finalement, ça n'a pas marché. Mais je crois qu'il y a quand même cette idée que voilà, il faut changer les institutions au niveau de la constituante, mais aussi au niveau de l'organisation des partis, pour que finalement les partis existeront toujours, mais pas sous cette forme organisationnelle-là, cette forme hiérarchisée, verticale, qui est à l'heure actuelle. Et à cet égard, juste pour finir, il y a trois défis, à mon avis. Il y a la démocratie participative avec des procédures très claires, l'ouverture des partis sous forme de partis réseau, et puis la mutation numérique. Tout simplement parce qu'il y a...
Alors moi, j'avais une question. Est-ce que pour vous, les primaires semblent aller dans le bon sens? Parce qu'on voit que c'est en train de s'imposer assez rapidement dans la vie politique française. Est-ce que c'est un pansement sur une jambe de bois, finalement, et que le débat est autre part, ou que c'est une certaine façon de faire revivre cet animal qui est de toute façon en train de disparaître? Ou est-ce que c'est quand même un vrai changement? Est-ce que peut-être que Hamon va sortir de la primaire socialiste, alors qu'il serait probablement pas sorti, entre guillemets, si l'élection s'était déroulée au sein des cadre du parti. Qu'est-ce que vous pensez aussi, par exemple, de la primaire.org, là, qui fait émerger un candidat complètement hors sol politique, justement? Est-ce que ça vous semble aller dans le bon sens, ou finalement, c'est pas du tout le débat?
On est effectivement, pour ceux qui veulent se poser les questions de la crise de système et de la crise politique, hein, parce que, bon, on est bien d'accord qu'il y a une crise. Il y a effectivement deux types d'attitudes. Il y a l'attitude qui consiste à essayer de sauver le système en inventant un certain nombre de choses parallèles qui permettent qu'on ne change pas totalement. De ce point de vue, les primaires, ça en est un bon. Ça relégitime les partis qui étaient vraiment mal en point. Et puis ça permet éventuellement, je demande, d'avoir le candidat qui sera plus en osmose avec l'électorat, alors qu'il n'aurait pas été s'il avait été désigné par la direction du parti. Bon, voilà. Soit dit en passant, on pourrait voir des choses identiques aux États-Unis. S'il y avait eu Bernie Sanders, peut-être que ça aurait été différent. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ce genre de débat. De ce point de vue, moi je pense que tout ce qui est dit... Bon, moi, je suis, autant le dire franchement, très hostile au tirage au sort, parce que je pense que les citoyens ne sont pas interchangeables, et qu'un citoyen, tout citoyen, doit participer à la vie publique, doit du moins en avoir la possibilité. Le tirage au sort, et en plus, on les met dans les mains d'experts qui vont leur dire qui désigne les experts, etc., etc. Bon, cela étant, c'est un autre débat.
Je pense que c'est lié.
Mais c'est un débat qui, à mon avis, n'est pas achevé aujourd'hui, de toute façon. Cela étant, l'idée constituante, c'est de dire c'est vraiment le système dans sa globalité qui est en cause. Et donc, il ne s'agit pas de trouver les trucs qui vont changer de ci, de là. Je dirais même, la constituante, ce n'est pas l'objectif essentiel. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le processus qui y mène.
C'est pas la constitution, vous voulez dire.
C'est pas la constitution. Mmh. Ça, c'est la fin du processus. Mmh. Le processus, c'est la reconstitution du citoyen. Et je dirais de l'humanisme, d'une certaine façon.
Mais concrètement, comment elle serait désignée, cette constituante, par exemple ?
Mais justement, c'est une des questions sur lesquelles on réfléchit. Et on ne souhaite pas réfléchir tout seul. Si, par exemple, on fait des réunions, comme on va faire ce samedi à Montreuil, avec une vingtaine d'associations diverses, sur des sujets assez différents. Hein. C'est justement parce qu'on pense qu'il y a ce besoin de se rencontrer pour en parler, pas pour constituer un truc, un cartel, un machin. Bon, ça va, tout le monde a donné là-dessus. Non, pour savoir qu'on est tous dans la recherche et que on légitime cette recherche parce qu'on constate que plein d'autres le font.
Mmh. Voilà. Moi, c'est intéressant, ces débats, ce qui, justement, je me souviens de la place de la République avec le mouvement de Nuit Debout qui vraiment faisait une large place au débat. C'est vrai que pour avoir assisté deux ou trois fois, c'était à la fois interminable, à la fois passionnant de voir vraiment les gens se succéder. Mais au bout d'un moment, on se demandait, c'est vraiment un point de vue personnel, si le débat n'avait pas remplacé, enfin, si les personnes qui étaient là, qui croyaient au mouvement, ne pensaient pas que le débat était la politique. Alors que, dans mon esprit, un parti politique, c'est quand même au bout d'un moment, ok, pour faire émerger des idées, mais peut-être pour les appliquer et faire les compromis, avoir les mains sales, comme on dit. Mmh. Est-ce que c'est pas justement une des limites des mouvements qu'on peut voir? Je pense à un mouvement 5 étoiles, par exemple, qui a presque peur d'exercer le pouvoir et de se couper la société.
Il y a plusieurs choses. Peut-être juste pour revenir sur la question des primaires, vous allez voir qu'il y a un lien. Est-ce que c'est un changement? Oui. Est-ce qu'il est démocratique? Non. Ça, pour le coup, il y a quand même des études empiriques qui ont été faites. C'est notamment regarder les procédures qui permettent à un candidat de pouvoir être éligible, justement, et de pouvoir se présenter. C'est-à-dire qu'il y a un très bon travail de Rémi Lefebvre et Eric Trey qui ont sorti un livre sur les différentes primaires qui ont été menées. On voit que finalement, on peut désigner un certain nombre d'élites partisanes qui ont été sélectionnées par des procédures qui les favorisent. Donc à cet égard, démocratique, certainement pas. Par contre, que ça soit une grande lessiveuse à sortant, c'est à peu près assuré. Et on le voit bien dans cette efficacité-là. Donc si vous laissez une appropriation démocratique d'un outil qui ne l'est pas, qui permet simplement au moins un moment à un certain nombre de personnes de s'exprimer. Sur la question après de Nuit Debout ou ensuite du mouvement 5 étoiles, mais s'ils sont de nature différente, Nuit Debout, je crois que c'était effectivement un moment, le symptôme d'un besoin de parler, d'un besoin de débattre, etc. Mais qui s'est collé à une réalité, c'est que débattre pourquoi, avec un certain nombre de procédures qui sont très bien, effectivement, mais c'est là où, à un moment, il faut quand même poser cette question du relais vis-à-vis des partis, de changer ces procédures-là qui vont permettre, alors le tirage au sort, visiblement, vous n'êtes pas très fan. Je pense que ça permet simplement, en tant que... Oh oui, mais il y a un élément qu'il ne faut pas négliger, c'est que c'est une manière de faire participer les individus. Quand on parle de constituante, la tentative qui a été expérimentée, notamment en Islande, de constituante avec une partie des gens qui étaient au tirage au sort, a permis de politiser, de socialiser...
La constituante islandaise a été élue.
Non, une partie.
Les tirés au sort, c'était uniquement pour
préparer la constituante. Si, pour le coup, pour préparer la constituante. Premièrement. Deuxièmement, il y a eu aussi un certain nombre de participations via Internet pour pouvoir faire un certain nombre de propositions. Donc, vous ne pouvez pas ne pas être satisfait du résultat, mais dire qu'il n'y a pas eu de tirage au sort là-dessus, c'est pas le cas. Point. Sur le mouvement 5 étoiles, on voit aussi qu'à partir du moment où il n'y a pas ces procédures démocratiques, on voit très rapidement qu'on dérive plutôt dans une logique on va dire populiste, d'expression d'un certain nombre de revendications, mais qui est absolument désincarné sur la réalité. On voit d'ailleurs la mairie de Rome, l'absence de préparation sur des programmes et sur qu'est-ce qu'on fait concrètement.
Et du coup, peut-être passons à qu'est-ce qu'on fait concrètement. Thibaut Rioufret, vous avez parlé de plateforme, c'est quelque chose vraiment que je voudrais explorer, parce qu'on a l'impression, on y revient un peu à chaque émission, on revient toujours sur ces outils numériques, mais on voit que c'est vraiment transversal et que ça bouscule tous les sujets, et notamment sur le politique, on voit que grâce au numérique, on peut trouver un outil qui connecte peut-être société et représentants politiques ou associatifs. Concrètement, comment on organise une démocratie avec le numérique ? peut-être André Bellon.
Comment est-ce qu'on organise une démocratie en général avec ou sans numérique? C'est une question éternelle, ça.
Le problème, là, on a l'impression d'avoir un outil efficace. Non, ben,
le numérique, c'est aussi la part donnée aux gens qui passent leur temps là-dessus en racontant n'importe quoi. Il y a le meilleur comme le pire. Bon, on le sait tous, on en a tous fait l'expérience. Ça ne peut pas en rester là. Il faut que ça débouche sur le réel de la relation sociale. Le problème, c'est... Enfin, pour moi, maintenant, je conçois très bien qu'on ne soit pas d'accord avec ça. Le problème, pour moi, c'est la reconstitution du corps politique pour faire face à des enjeux. Parce que j'ai l'impression, quand j'entends certains débats sur la démocratie, qu'on fait la démocratie parce qu'on veut faire quelque chose de beau. On fait quelque chose parce qu'il y a des enjeux qui nécessitent la mobilisation des gens et qui se sentent concernés. Aujourd'hui, le problème, c'est que les citoyens ne sont plus concernés par la vie publique parce qu'on a tout fait pour qu'ils ne le soient plus. Bon, et comment réagit-on par rapport à l'Union européenne qui est en crise? Et qui va décider comment on gère cette affaire alors que tous les partis politiques officiels sont à peu près sur la même position? Comment est-ce qu'on gère la question de la mondialisation et peut-être de sa remise en cause par Trump? Comment, etc.
J'ai l'impression que les électeurs sont quand même concernés. Je reboucle un petit peu avec le début de l'émission où on voyait qu'effectivement dans les partis politiques il n'y avait pas forcément beaucoup d'activité, mais par contre au niveau associatif et au niveau de la réflexion, il y a quand même de la matière.
On peut pas dire qu'ils sont pas concernés. En disant ça, vous dites vous-même que la réponse ne vient pas de la société politique telle qu'elle est.
Oui, d'où sa crise
donc,
actuelle.
D'où la nécessité de la constituante. Mais la constituante, c'est pas une assemblée élue comme ça, du jour au lendemain, n'importe comment. C'est un processus de reprise en main de la citoyenneté qui aboutira inévitablement à poser la question des institutions, parce qu'il faut bien savoir sur quelles règles on vit en commun.
Alors peut-être pour rebondir là-dessus, on va peut-être revenir sur l'exemple islandais qui n'a pas été très médiatisé non plus. L'Islande a préparé une nouvelle constitution un peu dans le sillage de la crise financière et elle a été aboutie, elle a été même acceptée par référendum, même s'il n'y a pas tout à fait eu assez de participation, et elle a été rapidement enterrée finalement, elle a été placardisée, cette constitution, elle n'existe plus quasiment. Quels enseignements vous tirez de...
Pour la petite histoire, si vous allez sur notre site, vous retrouverez un article qui s'appelle « 1000 articles pour un volcan, 0 pour une constituante ». Je crois qu'on a été parmi les premiers à lancer le débat sur la constituante et même à faire une réunion à l'école normale supérieure avec madame l'ambassadeur d'Islande. On peut le retrouver sur notre site.
Mais est-ce que ça ne donne pas une mesure finalement des résistances, même dans un
tout
pays...
Tout processus historique de changement, tout processus, peut rater au sens... Il n'aboutit pas totalement à ce qu'il souhaite, mais c'est pas parce qu'il n'a pas eu l'aboutissement total qu'il ne s'est rien passé. Le fait qu'après ces événements, le président islandais ait fait une déclaration réélue alors qu'a priori il n'avait aucune chance avant, et dit, je le dis à mes amis européens, ce qui compte ce ne sont pas les marchés financiers, c'est la démocratie et les droits de l'homme. C'est quand même original, surtout de la part d'un président de droite, soit dit en passant. Bon, le fait que l'Islande ait renoncé à l'adhésion à l'Union européenne, est-ce que ce n'est pas une conséquence des événements et de la constituante? On ne peut pas regarder toujours en noir ou blanc.
Oui. Peut-être, Thibaut Rieffray.
Je suis d'accord sur le fait que le processus en lui-même a quand même changé un certain nombre de choses. Oui, cela étant dit, c'est aussi le révélateur quand même d'une résistance du champ politique et des professionnels. Et donc, à cet égard, je pense que c'est aussi des leçons sur la manière d'organiser ce processus pour éviter cette captation, ces blocages-là. En ça, c'est un enseignement. Pour revenir à la question finalement aussi du numérique, il y a quand même cette idée chez beaucoup de responsables politiques, et là je citerai le livre sur la déconnexion des élites, que finalement le numérique, c'est simplement un adjuvant. C'est simplement un compte Facebook ou un compte Twitter pour un parlementaire. Il y a deux options. Moi, à cet égard, je suis convaincu que la mutation numérique change effectivement, peut constituer un outil assez massif, supplémentaire de démocratie. On le voit avec les plateformes collaboratives. Et surtout, ça permet de politiser, de parler à des gens qui ne sont pas du tout sensibles à d'autres types de discours ou aux médias traditionnels. Par contre, il y a un point qu'il faut souligner. C'est que le risque de cette mutation numérique, numérique, c'est qu'il y ait une fracture politique qui soit une fracture numérique. C'est-à-dire que les gens qui se saisissent le moins de ces outils, qui ne sont pas formés à ces outils-là, soient aussi encore une fois des citoyens de seconde zone et laissés pour compte. Donc, s'il y a une mutation numérique, il faut aussi du coup qu'il y ait un travail de pédagogie, mais aussi de formation, de politisation, de formation à ces outils-là pour qu'ils puissent s'en emparer. Mais je suis convaincu qu'on ne pourra pas changer la question démocratique sans s'emparer de ces outils-là.
Écoutez, on va clore malheureusement ces débats beaucoup trop tôt. André Bellon, Thibaut Rioufray, je vous remercie d'avoir été sur Alire FM. Nicolas,
peut-être vous pouvez rappeler l'événement de ce week-end.
Ben, ce week-end, nous faisons à Montreuil, à la salle polyvalente, avenue de la Résistance, numéro 40 ou 50. Zut, j'ai soudain un doute. Enfin, bon, c'est à côté. Une réunion avec au moins une vingtaine d'associations, ce qu'on appelle les associations citoyennes maintenant, qui toutes réfléchissent justement sur la recréation de la démocratie, sur la recréation du citoyen, et c'est une excellente chose, et j'espère qu'on en fera beaucoup comme ça.
Thibaut, vous aviez aussi une actualité?
Oui, non, c'est pas pour faire de la pub, mais simplement, là, vient de paraître, en fait, l'ouvrage qui est tiré de ma thèse, donc sur les socialistes face à la troisième voie britannique, qui constitue finalement une manière de voir l'exemple de Tony Blair, qui est beaucoup cité dans le débat, et on voit avec l'actualité avec Manuel Valls, avec Emmanuel Macron. Donc voilà, il vient d'être publié aux presses universitaires de Grenoble.
On vous remercie, je crois.
Merci beaucoup.
Merci collectif.
Merci.
Aligre FM 93.1, vous écoutez les mondes du futur et c'est la rubrique d'actualité. Alors respect les amis, car vous avez devant vous un grand voyageur. Et oui, la SNCF m'accorde le privilège de rejoindre le club très fermé de ceux qui peuvent bénéficier d'une ligne téléphonique dédiée pour toutes mes demandes. On m'informe par courrier que j'ai désormais accès au guichet Pro, Express et Grand Voyageur pour mes départs immédiats. Autant dire, enfin je pense, il faudrait que je teste le système, que j'ai le droit donc aux salles d'attente chauffées, alors que avant je n'étais qu'un voyageur et donc je n'avais pas le droit au chauffage. Mais c'est d'un autre mode de transport que je veux vous parler aujourd'hui. Avez-vous déjà voyagé en car ? On regrette de faire plus d'un mètre 80 quand les genoux calés sur la poignée du siège de devant, on sent son estomac ballotter au gré des virages. Bah oui. Ça ne coûte pas cher de voyager en car, forcément. Il n'y a pas de wagon-bar, dont on n'est pas tenté par les dispendieux sandwichs Daily Monop que nous propose désormais la SNCF. Et du coup, c'est bon aussi pour le tour de taille. Deux fois plutôt qu'une, vu qu'à la pause en station-service, on a déjà l'estomac en délicatesse à cause des heures qu'on vient de passer dans l'aquarium. Oui, il paraît que ça s'appelle un aquarium, ce sont les chauffeurs de camions qui l'appellent comme ça. À tout ça se rajoute bien sûr l'odeur d'essence. Tiens, ça me rappelle mon enfance, quand je me penchais sur le pot d'échappement du diesel de mon père en disant « ça sent bon, la fumée ». À l'époque, pas de ceinture, pas de soupçon sur le diesel, pas de doute sur la couche d'ozone ou l'effet de serre, c'était le bon temps. Et ce sont tous ces souvenirs qu'il a ressuscités en moi Emmanuel Macron avec sa loi de 2015. Alors, qui sont les voyageurs de ces nouveaux aquariums ou ces aquariums qui se multiplient? Regardons d'un peu plus près l'étude de l'AFARER, qui est l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans une enquête donc publiée le 7 janvier dernier et intitulée, si j'en perds pas mes documents, « Les pratiques de mobilité de longue distance des voyageurs sur les lignes régulières d'autocars librement organisées ». Autrement dit, donc, les car Macron. 37% des utilisateurs des cars interrogés se détournent du train à cause de son prix. Il paraît aussi que le car est perçu donc comme moins cher, plus pratique que le covoiturage pour les bagages, ainsi que relativement plus confortable et plus sûr que celui-ci. Nous y voilà. Le prix, c'est ce qui fascine tout le monde. Du pas cher, c'est ce qu'on veut. Peu importe la pollution, peu importe qu'on brûle une journée entière pour faire Paris-Bordeaux, c'est du pas cher. Ça, c'est le premier argument. Et du côté des entreprises, qui sont les opérateurs de ces aquariums? Le site web de France Bleu Pays d'Auvergne m'a renseigné pour l'occasion. Il rapportait le 26 décembre dernier que des 5 sociétés de transport qui se sont lancées dans l'aventure, enthousiasme, création d'entreprise, allons-y, auto-entreprise, initiative, il n'en reste plus que 3. Selon la même source, le marché pèserait près de 3,5 millions de passagers et il aurait généré la création de plus de 2000 emplois. On apprend en poursuivant la lecture sur le site de France Bleu que la commission des études de la loi Macron avait estimé que cette libération pourrait permettre de créer 22 000 emplois. Donc tout le monde est d'accord pour dire que on est loin du compte. Le Figaro, certes, il roule à droite, donc on ne peut pas exclure qu'il soit légèrement critique, mais cette analyse est confirmée par le 20h de France 2 le 5 octobre dernier. Alors du coup, la concurrence bat son plein. Regardons maintenant les voyages qu'on nous propose. C'est très innovant, très très innovant. D'après France Bleu, en décembre dernier, Ouibus, la filiale de la SNCF, ben oui, puisque apparemment le service public organise la concurrence contre ses propres TGV, propose désormais aux Auvergnats de les transporter au départ de Clermont-Ferrand et jusqu'à Rennes. Êtes-vous prêt pour vos 10 heures de ballottement, calé dans la fauterine? D'accord, on nous promet ça à 25 euros. Le prix, toujours le prix, premier argument commercial. Alors, bienvenue dans le monde de la dérégulation. Vive la feutrine, le retour du bitume, du pneumatique et du pétrole. Non, décidément, je crois que je vais conserver ma jolie carte de grand voyageur à la SNCF, car j'aime le service public, la grande vitesse et l'électricité sans émission de CO2. Nicolas Mignoret.
Donc, je vais laisser la parole à Florent.
Ce sera court. Je voudrais juste expliquer pourquoi je n'ai pas ouvert un journal depuis à peu près 10 jours. C'est qu'on m'a offert à Noël un livre, Le chapiteau vert, de Ludmila Ulitskaya. Je crois que ça vient d'un repas de famille assez lambda l'année dernière où je crois que j'ai expliqué que j'avais lu un jour 3 pages de Dostoïevski ou de Tourguéniev, je sais plus. Et du coup, ça a pas raté. À Noël, ma belle famille m'a offert Ludmila Ulitskaya, le chapiteau vert. Et j'ai ouvert négligemment le livre dans le métro il y a à peu près 10 jours et ça a été un peu un choc, un vrai choc, à la fois littéraire, à la fois historique et culturel. L'auteur raconte la vie de 3 enfants à partir des années 50-60 jusque dans les années 80. Ce qui est fascinant avec ce livre, c'est que c'est vraiment une histoire de la vie au quotidien pendant l'URSS et plus particulièrement à Moscou. Donc on y parle effectivement d'éléments un peu folkloriques, de vodka ou de repas un peu arrosés, de l'omniprésence des KGBistes un peu partout et de la terreur imposée par ces gens. Mais on voit aussi comment la population au quotidien réagit à cette peur mais qui nous terrorise mais qui au quotidien est... Et
à la fois on s'habitue, vous voulez dire,
on s'habitue, d'une certaine manière. On s'habitue et on apprend à vivre avec. Il y a un passage assez étonnant où un couple sent qu'il est dans le viseur des KGBistes. Ils brûlent toutes leurs affaires un petit peu compromettantes le soir et puis dans le lit, ils commencent un petit peu à infuser sur qui peut être affecté par le fait qu'ils soient arrêtés. Et ils entreprennent le lendemain matin de se lever à l'aube et d'aller tout brûler chez leurs parents respectifs. Et puis la fatigue gagne, et ils s'endorment et ils se réveillent vers 10 heures et les KGBistes sont déjà là. C'est pas tragique. Pour l'instant, je n'ai pas assisté à un seul meurtre. C'est vraiment le climat au quotidien de la vie. On parle aussi d'histoires d'amour, de patins à glace volés et de bagarres pour avoir des potes à l'université.
Donc, voilà. Somme toute, vous nous le recommandez ?
Chaudement, avec un verre de vodka à
bon,
côté.
Bah, vous allez me le passer quand vous aurez terminé.
Très bien.
Merci. Nicolas Mignoret.
Eh bien alors, moi je ne sais pas si vous avez écouté France Inter le dimanche à 17h, mais depuis la rentrée, on a découvert une nouvelle émission qui s'appelle Demain la veille. Alors intrigué, je file sur leur site web qui annonce fièrement Nos futurs, au pluriel, sur France Inter. Tiens, j'ai déjà entendu ce thème traité à la radio quelque part. Et pourquoi préciser sur France Inter si ce n'est pour se différencier d'un concurrent gênant ? Puis tout de suite après, que mangerons-nous en 2050 ? Tiens, sur la page de notre émission sur aligrefm.org, notre premier sujet est « Que mangerons-nous en 2030 ?» Je déroule la liste de leurs sujets, je tombe sur...
Vous voyez bien qu'ils vont plus loin, ils voient plus loin que nous, 2050.
Donc dans leurs sujets, il y avait le son, la ville, le travail, des thèmes que nous avions déjà traités l'année dernière. Je zappe sur une émission, j'entends un extrait de « Bienvenue à Gattaca » que notre sagace Florent Detroit avait passé ici même un mois plus tôt. Ni une ni deux, j'appelle mon avocat, maître Cépadonné, qui me décourage de porter plainte pour plagiat. Tant pis, la guerre est déclarée et c'est l'heure des bilans. Alors d'abord le titre, Demain la veille versus les mondes du futur. Bon bah ça c'est pour eux. Si notre titre est plus clair et notre pluriel important, les mondes du futur, j'ai toujours eu un faible pour ce genre d'expression. La présentation, ça c'est pour nous. France Inter a déjà changé de présentatrice alors que notre maître de cérémonie François Legrand tire la baraque comme un chef. L'originalité...
Vous avez vu qu'on a une remarquable stabilité.
Eh oui. L'originalité, encore pour nous, eh ben parce que nous étions là avant, et puis c'est tout. Le rythme, égalité. Leur émission est hebdomadaire, mais un invité récent me confiait qu'il avait été très frustré de n'avoir que quelques minutes de parole. La musique, encore pour nous, même si mes goûts ne font pas l'unanimité au sein de ma propre équipe, je ne vais pas me déjuger si facilement. Le bilan est clair, victoire par chaos technique pour Aligrefm. Bon d'accord, le bilan est impartial, je rajoute un critère, l'audience. Bon bah ça c'est pour eux. Mais c'est parce qu'il y a une autre différence majeure, les moyens. Ici nous sommes tous des bénévoles, tandis qu'à France Inter, ce sont des salariés qui ne s'occupent que de cette émission. Radio France est une entreprise à 650 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aligrefm est une association qui survit depuis 35 ans avec quelques dizaines de milliers d'euros de subventions. Et encore, ces subventions sont laborieuses à obtenir. Pour bénéficier des bonnes grâces du FSER, Fonds de soutien à l'expression radiophonique, il faut remplir un dossier kafkaïen. En théorie, chaque invité de chaque émission doit attester de sa présence à la radio et de ce qu'il est venu y dire. Toutes nos émissions sont réécoutables, mais le technocrate du ministère de la Culture version Brésil n'aime pas les preuves audio. Il aime les formulaires papier, un différent par invité et un dossier chaque année. On serait presque tenté d'y voir une stratégie délibérée de strangulation bureaucratique. Pour résumer, salut à toi France Inter, puisque tu nous écoutes, et parle-en à l'occasion au ministère de la Culture qui n'a pas l'air d'en faire autant.
Nicolas Mignoret, notre diva du fado sur Aligrefm. On retrouvera, j'espère, votre chronique sur la page Facebook de l'émission. On nous trouve très facilement sur Facebook en tapant « Les mondes du futur ». C'était Les Mondes du Futur, une émission de François Legrand, Nicolas Mignoret, Florent Détroit. Aujourd'hui avec Guillemette Audicino, journaliste à Télérama, Thibaut Rioufret, docteur en sciences politiques et chercheur associé au laboratoire Triangle à l'ENS de Lyon, et André Bellon, ancien député PS et président de l'Association pour une constituante. Merci à Adrien Chéneau pour la réalisation et à son jeune padawan. Réécoutez Les Mondes du Futur sur aligrefm.org et rejoignez-nous sur Facebook en tapant Les Mondes du Futur. Tout finit en chanson dans Les Mondes du Futur. Un clin d'œil à la merveille de Damien Chazelle qui vient de sortir au cinéma La La Land. Le titre du film est un peu cucu, je vous l'accorde, mais sa bande originale est déjà dans toutes les têtes et sur toutes les lèvres. Et cela nous rappelle... que les petits plaisirs quotidiens ne sont pas à négliger.
Hopped a bus, here I came. I could be brave or just insane. We'll have to see. The rhythms in the canyons that'll never fade away. The ballads in the barrooms left by those who came before. They say we gotta want it more. So I bang on every door.
And even when the answer's no, when my money is running low, dusty mic and neon glow are all I need.
And someday as I sing a song, a small town kid'll come along. That'll be the